Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Un coup de projecteur sur le discours annuel du président américain sur l'état de l'Union. Hier soir, devant le Congrès américain, au grand complet à Washington. Le chef de l'exécutif, Donald Trump, y a vanté ce qu'il a appelé ses promesses tenues et une économie américaine à la santé rugissante lors d'une allocution qui s'est voulue très très positive à 9 mois de l'élection présidentielle de novembre. Le président Trump donne ici un aperçu des défis relevés.
Il y a trois années, nous avons lancé le grand renouveau pour l'Amérique. Aujourd'hui, je suis devant vous pour partager avec vous les résultats extraordinaires que nous avons accomplis. Nous avons davantage d'emplois, les revenus augmentent, la pauvreté se réduit, la criminalité chute, il y a davantage de confiance et notre pays se porte mieux que jamais et est à nouveau respecté par le reste du monde. Les ennemis de l'Amérique nous fuient. La fortune de l'Amérique se porte mieux. Notre avenir est brillantissime.
Donald Trump, lors de son discours sur l'état de l'Union. Qu'en pense l'ambassadeur américain Herman Cohen, qui a été pendant plusieurs années secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines? On l'écoute.
On peut dire qu'il a touché sur tout ce qui particulièrement est important pour sa base, la base qu'il a votée et sur laquelle il compte pour sa réélection. Tous les sujets, par exemple religieux, les écoles privées. On a parlé naturellement de l'avortement, de la prohibition de certains types d'avortement, etc. C'est-à-dire, il a pratiquement envoyé son message à tous ceux qui l'ont appuyé dans sa première élection et qui, naturellement, il espère qu'ils vont le refaire cette année aussi.
L'ambassadeur américain Herman Cohen. Le président Donald Trump traverse en ce moment une bonne période, à preuve son acquittement quasi certain ce mercredi soir par le Sénat, qui manquera l'épilogue d'une procédure de destitution de 5 mois qui n'a pas fait vaciller sa base électorale toujours fidèle. D'où l'importance de ce discours de campagne à l'occasion du message sur l'état de l'Union, nous dit le professeur Leonard Wanchekon de l'Université de Princeton dans le New Jersey.
Il s'est attribué tous les succès possibles, économiques, technologiques, également dans les affaires étrangères. C'est pas du tout surprenant, c'est vraiment un discours de campagne. Mais ce que je dois souligner, c'est vraiment le fait qu'il persiste dans la démagogie en ce qui concerne l'immigration. Donc, en fait, la violence dans les écoles, les massacres dans les écoles, et puis la montée de l'antisémitisme, la violence raciale, tout ce qui se passe sous son règne, on n'en parle pas, mais ce dont on parle plutôt, c'est quelques cas de meurtre et de crimes commis par des immigrants illégaux. Voilà, donc c'est vraiment en temps, quoi. De l'autre côté, j'ai trouvé vraiment amusant le fait que les problèmes de l'éducation dans le pays se réduisent tout simplement à envoyer quelques enfants dans des écoles de leur choix. Comme si, en fait, le problème n'est pas beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Voilà. Et puis, c'est intéressant, surtout, que l'appel à la religion, comme si, finalement, les démocrates sont anti-religieux, et puis les valeurs religieuses fondamentales des États-Unis, c'est lui qui les protège, c'est lui qui protège le droit des gens à prier dans les écoles, plutôt que les démocraties qui opposent l'avortement, tout le reste, quoi. Vraiment, c'est un discours de campagne, et je ne m'attendais pas à mieux, ça c'est clair, mais dans le même temps, ça reste quand même préoccupant, quoi.
Le professeur Leonard Wanchekon de l'Université de Princeton dans le New Jersey. Dans la réponse de l'opposition démocrate au discours de Donald Trump sur l'état de l'Union, la gouverneure démocrate de l'état du Michigan, Gretchen Whitmer, a notamment minimisé les succès économiques dont se targue le chef de l'exécutif. Course à la présidence côté démocrate maintenant, l'ex-maire Pete Buttigieg en tête des caucus, les premières démocrates de l'État d'Iowa, avec 26,8% des voix. En deuxième place, le sénateur du Vermont Bernie Sanders, avec seulement un point en moins. Troisième, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren. Et quatrième, Joe Biden, qui fut le vice-président de Barack Obama. Des résultats encore partiels, diffusés mardi par les instances locales du Parti démocrate après une très longue et chaotique attente.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique du Nord maintenant, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a signé mardi un décret graciant près de 3500 condamnés. Une mesure de clémence qui ne concerne toutefois pas les détenus liés au mouvement de contestation populaire anti-régime en Algérie. Des prisonniers en majorité en attente de jugement. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Le chef de l'État a décidé de mesures de grâce au profit d'un premier groupe de 3471 détenus ou non détenus, condamnés définitivement et dont il ne reste de leur peine que 6 mois ou moins à purger, a précisé la présidence dans un communiqué cité par l'agence officielle APS. Ce premier groupe sera suivi par un deuxième qui englobera des détenus condamnés définitivement et dont il ne reste de leur peine que 12 mois ou moins à purger selon le communiqué. Toutefois, le décret ne concerne pas les personnes incarcérées pour des faits liés au HIRAC, le mouvement de contestation qui ébranle le pouvoir depuis bientôt un an. La plupart n'ont pas encore été jugés, a expliqué à l'AFP Kassi Tansaout, coordinateur du Comité national pour la libération des détenus, CNLD. Le CNLD, une association de soutien, a recensé 142 manifestants actuellement en détention provisoire et 1300 autres qui font l'objet de poursuites judiciaires pour des faits liés à la campagne du scrutin présidentiel. Selon ce dernier, plus de 200 opposants au total ont été remis en liberté, la plupart depuis le début de l'année. Le décret présidentiel exclut notamment les prisonniers condamnés pour corruption, trafic de drogue ou terrorisme selon des médias locaux.
République centrafricaine, c'est demain l'anniversaire de l'accord de paix signé le 6 février entre le gouvernement et 14 groupes armés. Mais si cet accord de paix tient toujours, il n'a jamais été aussi fragile à 10 mois d'une élection présidentielle à risque. Les détails avec Idrissa Sedoudia.
Si les violences ont baissé au cours des premiers mois de 2019, depuis septembre, elles se sont multipliées dans le nord-est, fief des rébellions successives contre le pouvoir de Bangui. Dressant un constat d'échec de la mise en œuvre de l'accord début janvier, les leaders rebelles ont rappelé leurs revendications. Libération de prisonniers, intégration de leurs combattants dans l'armée, autonomie accrue des régions délaissées par le pouvoir central. Les groupes armés rechignent à désarmer et leurs combattants continuent de perpétrer des exactions. L'impunité demeure. Quelques progrès ont pourtant été enregistrés depuis un an, principalement dans le nord-ouest où les combattants de plusieurs groupes armés de moindre envergure ont pris part au processus de désarmement et de démobilisation censé assurer leur retour à la vie civile. En parallèle, l'État centrafricain a amorcé son difficile retour. Le nombre de fonctionnaires sur le territoire a quasiment triplé depuis 2013 et les unités de l'armée centrafricaine formées par l'Union européenne et la Russie, se sont redéployées dans plusieurs localités. Entre les mouvements armés et le pouvoir de Bangui, le ton s'est quand même durci et face au dialogue de sourds, les observateurs entrevoient une seule issue de secours. C'est l'élection présidentielle de décembre 2020.
Politique en Guinée, le président Alpha Condé a fixé au 1er mars la tenue d'un référendum constitutionnel, malgré l'intense contestation contre ce que l'opposition dénonce comme une manœuvre de sa part pour briguer un troisième mandat fin 2020. Le référendum sera donc couplé aux législatives prévues le 16 février et dont le report au 1er mars avait déjà été annoncé lundi. L'annonce de la date du référendum attendue depuis des semaines risque d'accroître les tensions déjà vives en Guinée. Le pays est le théâtre depuis la mi-octobre de protestations contre le projet prêté de longue date au président Condé, élu en 2010 et réélu en 2015, de chercher à se succéder fin 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Afrique de l'Ouest toujours, en Guinée-Bissau, la CNE, la Commission nationale électorale, a de nouveau donné Oumaro Sissoko Embalo, vainqueur de l'élection présidentielle après une vérification des procès verbaux du second tour, demandé par l'organisation ouest-africaine CDAO pour tenter de sortir le pays de l'impasse politique. La CNE a publié mardi un tableau des résultats sans changement par rapport à ceux annoncés le 1er janvier qui accordait la victoire à M. Embalo et 46,45% à son rival Domingos Simões Pereira, le candidat du PAIGC, le parti au pouvoir. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com.